Radio Kapi.
Suite de la visite à Beni de la chef de la MONUSCO, Bintou Keïta a rencontré hier plusieurs responsables civils et militaires de la région. Pas de vaccin pour les enfants à Goma, des centres de santé fermés, pas de consultation prénatale pour les femmes. Autant des conséquences 40 jours après le déclenchement de la grève des infirmiers, le vice-président de l'Assemblée provinciale du Nord Kivu appelle le gouvernement à prendre à bras-le-corps ce problème. Kaboulo Mwana Kaboulo est notre invité ce matin, le directeur de service des sports à la Radio-Télévision Nationale et analyste sportif va s'exprimer sur la contre-performance des Léopards lors des deux premières journées pour la qualification au Mondial 2022. Bonjour à tous. La chef de la MONUSCO poursuit sa visite à Beni où elle est arrivée mercredi accompagnée d'une forte délégation du leadership de la mission onusienne. Bintou Keïta a rencontré hier jeudi plusieurs responsables tant civils que militaires de la région. Au terme de sa rencontre avec les responsables des organisations des défenses des droits de l'homme et de la société civile, la chef de la MONUSCO dit avoir écouté leur évaluation de l'état de siège. Bintou Keïta est au micro d'André Kitenge.
On voulait entendre nous-mêmes l'évaluation que font les autorités militaires, police, société civile, les défenseurs des droits de l'homme. Dans la société civile, on avait tout, hein, les femmes, les jeunes, les hommes, les confessions religieuses, toutes religions mises ensemble, pour les écouter et voir quels sont les éléments sur lesquels on doit travailler encore davantage, parce que cet état de siège est un outil très important de la lutte contre l'insécurité à l'Est, et notamment dans ces deux provinces, et il faut qu'il soit une opération réussie. Et pour le réussir, il faut l'acceptation de cet état de siège, et dans l'acceptation, il y a à la fois le niveau communautaire, il y a le niveau de la société civile, et ceux des leaders d'opinion qui font l'opinion, et qu'il faut avoir une solidarité avec l'armée et la police qui travaillent dans des conditions extrêmement complexes, extrêmement compliquées et très difficiles.
Le commandement des opérations Sokola 1 Grand Nord s'est dit satisfait de l'appui qu'apporte la MONUSCO au FRDC lors des opérations militaires contre les groupes armés. Pour le porte-parole du gouverneur de la province du Nord Kivu, les deux partenaires ont trouvé ensemble les modus vivendi pour aller de l'avant dans les opérations en cours. Le général de brigade Sylvain Ekenge l'a dit hier jeudi à la sortie de la rencontre entre le commandement de Sokola 1 et le leadership de la MONUSCO en séjour à Beni. Il est au micro d'André Kitenge.
Ce sont des échanges permanents entre les partenaires qui travaillent ensemble dans le cadre des opérations qui sont menées dans la province du Nord Kivu pendant l'état des sièges. Nous avons échangé sur tous les points. Et effectivement, nous avons analysé les points forts et les points faibles et on a trouvé le modus vivendi pour aller de l'avant et ne plus refaire ce qui a été fait par le passé. Pour le moment, je vous dirais que les échanges sont bons. Nous attendons ce que nous devons attendre. C'est nous qui sommes sur le terrain à la première ligne, mais nous attendons les appuis habituels de la MONUSCO, appuis en termes de renseignement, d'évacuation sanitaire, appui logistique, c'est-à-dire nous ramener notre logistique sur le terrain et aussi l'évacuation des non-morts et surtout c'est que nous insistons sur les aspects liés aux renseignements qui aujourd'hui nous aident à mener les opérations sur le terrain.
Tous les ex-combattants des groupes armés qui déposent les armes actuellement doivent vite être transformés en acteurs de développement, principalement en agriculture. Ces plaidoyers et du député national Jean-Olive Moudé-Kereza Namegabé, l'élu du territoire de Walungu, propose que le nouveau programme DDRCS oriente plus ces jeunes dans la plaine de la Ruzizi pour des activités agricoles. Les propos de Olive Moudé-Kereza recueillis par Emmanuel Elamejua Kabedi.
J'encourage le nouveau système de mobilisation. On espère que ça va donner un impact positif pour que tous ces gens-là, qu'on les ramène comme on a fait au Kanyamega CC. On peut même les transformer en entrepreneurs. On amène tous ces bandits du Sud Kivu, Mai Mai, tous ces gens qui quittent les bandes armées. On les amène dans la plaine, on donne 1000 hectares, on laboure pour eux, on sème pour eux, ils entretiennent. 6 mois, ils récoltent, chacun à son entreprise, on leur donne 1 hectare, 1 hectare. On les amène à Chabunda, on fait l'espace de 10 000 hectares. On regarde tous ces nous avons comme réserve, l'État les accompagne, on amène les ingénieurs agronomes, des têtes d'air, vous terminez à l'île de vous pourrez aller accompagner ces gens, montrer comment on cultive. On transforme les bandits de vieux en agents de développement. Faites comme la Chine. La Chine avait décidé, les années 80, pour révolutionner, il a dit, nous prenons chacun un haut. Tout le monde ont pris des hauts, même les médecins, les généraux, les ministres. Vacances, on part au chat. Voilà, on a à manger, ils ont des réserves, ils ont l'exportation. Même le président Mobutu l'avait fait, il avait dit, retroussons les manches. Parce qu'il venait de la Chine.
Lutte contre les violations de droits de l'homme au sein de la police nationale congolaise. Un comité est à pied d'œuvre au Kasaï central en exécution d'une circulaire du vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur. Cette équipe s'engage à suivre le traitement des dossiers documentés des violations de droits de l'homme commis par les éléments de l'ordre au niveau disciplinaire que judiciaire. La Commission nationale de droits de l'homme, CNDH, fait partie de ce comité. Son coordonnateur au Kasaï central souligne que le souci est d'améliorer la situation et l'image de la police et ne pas permettre à certains éléments de continuer avec les bavures et violations de droits de l'homme. Maître Vincent Kayembe l'a dit à François Kadima.
L'État, en tant que personne morale qui agit à travers ses préposés, et on a identifié, on a doigté du doigt bien entendu les policiers et on veut juste mettre fin à cette espèce de gangrène lorsque les policiers vont plus loin pour commettre des infractions. Et avec l'initiative prise par le vice-premier ministre, le ministre de l'Intérieur, il est juste vous dire que nous aussi, au niveau du Kasaï central, nous avons déjà commencé à réceptionner des appels, des dénonciations, et en même temps, c'est l'occasion pour nous de dire aux policiers de cesser avec les violations des droits de l'homme. Nous voudrions demander aux policiers de travailler pour le respect. C'est mieux qu'ils s'engagent dans la lutte contre les violations des droits de l'homme. Ça, c'est vraiment une mission première, et je crois que la population aussi a cette part de responsabilité de nous tenir en haleine, parce qu'effectivement, nous allons nous occuper de la documentation de tous ces cas. Mais ce qui est aussi vrai, c'est que non seulement nous allons nous mettre à documenter les cas de violation des droits de l'homme, mais nous sommes aussi au niveau de la prévention.
Notons qu'en dehors de la CNDH, l'on retrouve également dans ce comité le BCNUDH, la police de la MONUSCO, l'inspection et commissariat général de la PNC, la justice militaire, le ministère de l'Intérieur et la société civile. La ministre du Genre et Famille met en garde contre toute publication des images à caractère sexuel mettant en exergue les enfants. Elle sensibilise également tout adulte à s'impliquer dans la protection des adolescents. Dans un message en rapport avec les vidéos circulant sur les réseaux sociaux montrant des jeunes élèves en uniforme en ébat sexuel, la ministre présente son désarroi et annonce que le ministère de la Justice s'est saisi du dossier pour que pareille situation soit sanctionnée selon la loi en vigueur. Gisèle Ndaya Louséba, ministre en charge du genre, famille et enfants, est dans cet extrait que nous propose Billy Van Lutumba.
Mon ministère condamne cet acte qui relève d'une bassesse intolérable. J'interpelle chacun des intervenants dans la protection et la promotion des droits de l'enfant sur la responsabilité qui nous incombe sur l'encadrement des enfants. J'exige des enquêtes judiciaires pour établir la lumière sur cette délinquance juvénile. Je rappelle à l'opinion congolaise qu'il est des devoirs des adultes de protéger les enfants. De même, il est de l'intérêt supérieur des enfants en ce que le droit des enfants quant à leur scolarité et leur réputation soit protégé dans toute réaction ou décision à prendre. Je rappelle à la population congolaise que la pornographie mettant en scène des enfants est une infraction au terme de l'article 174-1 du Code pénal congolais. Quiconque aura fait toute représentation par quelque moyen que ce soit de ses enfants s'adonnant à des activités sexuelles ou toute représentation des organes sexuels des enfants sera puni de 5 à 10 ans d'emprisonnement.
Grève des infirmiers au Nord Kivu, cela fait déjà 40 jours de grogne sociale. Les conséquences néfastes se font beaucoup sentir sur les populations, les malades notamment, alerte le vice-président de l'Assemblée provinciale. Pas de vaccins phares pour les enfants, des centres de santé fermés, pas de consultations prénatales pour les femmes qui ne reçoivent pas non plus leur vaccin. Jean-Paul Lumbulumbu parle d'une situation désastreuse. Il appelle le gouvernement à prendre à bras-le-corps cette question. Jean-Paul Lumbulumbu est au micro de Denise Lukesso.
Plusieurs vaccins n'ont pas été administrés aux enfants. Le vaccin contre la poliomyélite, contre la rougeole, les antitétaniques n'ont pas été administrés aux femmes enceintes. Les consultations prénatales également n'ont pas pas fait l'objet de suivi pendant, voilà, 40 jours. Dans les territoires de Lubero, par exemple, des centres de santé de Monoli fermés. Nous pensons que la situation, elle est tellement désastreuse qu'il faut que Kinshasa trouve immédiatement une solution au problème du personnel non soignant et permettre à ce que le personnel non médecin puisse être pris en charge et qu'il puisse commencer les activités dans les centres de santé, parce qu'il en va de la vie de la population, de la vie des malades. Parce que la prolongation de cette situation risque d'avoir des conséquences assez néfastes sur la vie non seulement des malades, la vie des enfants, mais également sur particulièrement la vie des femmes enceintes.
Déclenchée depuis début août dernier, les infirmiers réclament notamment leur prime de risque. Radio Okapi poursuit la série de reportages commencée depuis mardi sur la situation des morgues à travers certaines villes du pays. Dans la ville de Kinshasa, les morgues sont de plus en plus débordées depuis quelques mois. La capacité d'accueil ne correspond plus au nombre des corps reçus par jour. C'est le constat fait par notre reporter qui a visité les morgues de quelques hôpitaux du secteur public. Célestine Massoudi signe ce reportage.
À l'hôpital général de référence de Kinshasa ex-Mamayemo, qui compte deux morgues, presque tous les corps qui y sont acheminés chaque jour sont acceptés malgré l'insuffisance des places. Conséquence, les odeurs nauséabondes mettent à mal la vie des visiteurs et celle des malades internés dans les pavillons avoisinant la morgue, tellement que la puanteur est insupportable. À l'hôpital général de référence de la commune d'Ndjili, quartier 7, le personnel est obligé de placer certains corps de côté, attendant que les places se libèrent parmi les 60 places que compte le frigo de la morgue. D'autres cadavres sont refusés pour éviter qu'ils ne pourrissent et ne dégagent des odeurs. Même constat pour le morgue des cliniques Galiema et Kinoise. Depuis l'avènement de la pandémie du Covid-19 dans le pays, les capacités d'accueil dépassées. Dans les deux établissements, la priorité est accordée aux morts internes. Ceux venus d'ailleurs ne sont pas acceptés. Le personnel demande aux autorités de revoir la mesure interdisant la sortie des morgues de plus de 5 corps entre jeudi et dimanche. Dans la commune de Ngaba, l'inauguration récente d'une nouvelle morgue avec une capacité d'accueil de 200 corps au centre de référence mère et enfant n'a malheureusement pas résolu le problème. Les familles sont toujours obligées de frapper à plusieurs portes pour conserver les corps de leurs morts.
Le député national Jado Mangwengwe plaide pour le retour du trafic aérien afin de désenclaver la zone de Beni-Boutembo. L'élu de Beni signale que depuis environ un mois, aucun avion n'atterrit ni ne décolle de Beni. Il l'a déclaré hier jeudi à Radio Okapi. Il demande au gouvernement de se pencher sur cette situation qui, dit-il, est très préoccupante. Jado Mangwengwe appelle également les compagnies aériennes à l'humanisme et au patriotisme pour aider les populations de cette zone durement touchée par l'insécurité, ajoute-t-il. Jado Mangwengwe est au micro d'Alain Rung.
Depuis un certain temps, les habitants de Beni et Boutembo ont des difficultés pour voyager, pour atteindre Bunia, pour atteindre Goma et Kinshasa. C'est-à-dire, facilement, on ne sait plus faire Bunia. Il y a les ADF sur cette route. Faire Goma depuis plusieurs années, il y a toujours de l'insécurité sur cette tronçon. C'est ce qui explique qu'il y ait toujours un convoi protégé par l'armée. Et c'est pas tout le monde qui sait s'habituer à de tels voyages. L'unique moyen qui facilitait aux habitants de Beni, Lubero, Boutembo de voyager en toute quiétude, ce sont les avions. Mais ça fait un mois environ que les avions commerciaux n'atterrissent plus à Beni comme à Boutembo. À partir du moment où le gouvernement, à travers son ministère à l'économie, avait sorti une nouvelle tarification pour les routings à l'intérieur du pays. Voilà pourquoi nous profitons demander au gouvernement d'appuyer sur l'accélérateur pour parachever ces échanges, ces discussions avec les compagnies qui nous aidaient depuis tous ces temps, qui nous reliaient à Bunia, à Goma et à Kinshasa. Parce que maintenant ici nous sommes presque bloqués. Mais aussi aux compagnies, je cite CAA, Bizibi, qui nous aidaient, un peu d'humanisme, de patriotisme.
Actualité internationale. La délégation de la CEDEAO arrive finalement ce vendredi en Guinée. Une visite pour évaluer la situation 5 jours après le coup d'État qui a renversé Alpha Condé. L'organisation ouest-africaine s'est déjà penchée sur les cas guinéens. Mercredi, lors d'un sommet extraordinaire, elle a suspendu le pays de ses instances et exigé une nouvelle fois la libération du président qui est pour l'instant retenu dans un lieu tenu secret. Un avion évacuant 200 personnes, dont des Américains, a décollé hier jeudi en fin d'après-midi de Kaboul. Le premier vol passager pour l'étranger au départ de la capitale afghane depuis le retrait américain fin août. Selon l'AFP, l'avion à destination de Doha est le premier de ce type depuis le gigantesque pont aérien organisé par les Américains et qui a permis l'évacuation de plus de 120 000 personnes depuis le soudain retour au pouvoir des talibans à la mi-août.
L'invité.
Claude-François Kaboulo Mwana Kaboulo, directeur au service des sports à la Radio-Télévision Nationale Congolaise et analyste sportif, est notre invité. Ce matin, il explique les raisons qui, selon lui, ont été à la base de la contre-performance des Léopards lors des deux premières journées de qualification au Mondial 2022. Il estime que les chances pour les Léopards de la RDC d'obtenir le ticket du Mondial sont sensiblement réduites. Mais il rassure la population quant à la retransmission en direct par la RTNC des prochaines rencontres des Léopards. Claude-François Kaboulo Mwana Kaboulo s'entretient avec J.R. Lungembo.
Monsieur Kaboulo, bonjour.
Bonjour.
Les amoureux du ballon rond en RDC se disent déçus des résultats enregistrés par les Léopards lors des deux journées disputées dans les cadres des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. Quelle est votre posture?
Non, je pense qu'ils ont tout à fait raison dans la mesure où on a commencé par perdre deux points à domicile. Or, dans ces systèmes, il faut gagner tous les matchs à domicile. C'est pour ça qu'ils sont déçus. Bien sûr, au-delà de cela, il y a aussi la prestation de l'équipe nationale qui n'a pas été satisfaisante. On a vu beaucoup de défaillances dans la circulation du ballon et dans la construction, ce qui a permis aux Tanzaniens de refaire très très vite les retards. Donc je pense que leur déception est tout à fait justifiée dans la mesure où la République démocratique du Congo a fait une mauvaise opération comptable parce qu'on se retrouve maintenant troisième dans un système assez compliqué avec deux points. Il reste encore 12 points à prendre. On verra comment on fera.
Qu'est-ce qui explique cette prestation peu convaincante des Léopards contre la Tanzanie et le Bénin?
Je pense que dans l'équipe de la République démocratique du Congo, il y a les facteurs temps. Hector Cooper, l'entraîneur argentin, est arrivé. Il était seulement à son troisième match, à part les deux matchs amicaux livrés en Tunisie, contre la Tunisie et contre le Mali. Donc, en fait, il ne connaît pas encore les joueurs. Il n'a pas encore eu le temps de découvrir les joueurs parce qu'il y a des calendriers contraignants de la FIFA et de la CAF qui ne permettent pas aux entraîneurs, en fait, de disposer de leur équipe suffisamment tôt. Les joueurs arrivent un jour, deux jours avant. Il y a certains qui arrivent le même jour du match et c'est valable pour toutes les équipes. Et puis, donc, ça ne donne pas le temps technique à l'entraîneur national de connaître le joueur. Par exemple, il n'a jamais vu jouer Neskens Kebano. Il l'a vu pour la première fois seulement à Cotonou.
Donc, à ce niveau, on ne peut pas soulever la question de l'efficacité du staff pour faire évoluer l'équipe nationale.
Non. Les staffs, je pense que c'est formé par des gens. Hector Cooper, c'est quand même un grand entraîneur. Il a amené l'Égypte à la dernière Coupe du Monde en Russie. Il a amené l'Égypte en finale de la CAN 2017. Il a été un grand entraîneur en Espagne deux fois. Ligue de de football, c'est pas peu, mais un entraîneur a besoin de temps. Surtout en plus, il parle pas français, il parle espagnol, donc tout ça, ça se complique un tout petit peu. Je crois que si matériellement il a le temps et s'il découvre le joueur congolais, il peut à la rigueur avoir une bonne équipe. Alors là, il faut le facteur temps, il faut pas exiger alors les résultats immédiatement, il faut lui donner du temps.
Quelles sont concrètement les chances de qualification de nos Léopards pour Qatar 2022?
Non, les chances sont sensiblement réduites maintenant, parce que là, on a deux points par rapport à la Tanzanie qui a 4, le Bénin 4. Donc mathématiquement parlant, nous avons fait...
Il nous faut absolument une victoire dans le prochain match.
Non, attention, mais les autres jouent aussi. Hein. Vous savez, l'équipe de la Tanzanie maintenant est superbement motivée. Et ça me paraît la meilleure équipe du groupe. Il y a le Bénin qui a fait un faux pas à domicile, mais compensé par la victoire à l'extérieur. Donc le Bénin est bien parti. Nous, maintenant, il faut cavaler. Mais pour cavaler, il faut absolument qu'il y ait des changements dans l'effectif, parce que l'effectif que j'ai vu, il y a quand même des joueurs, il faut dire qu'ils commencent à être dépassés par l'âge. Et puis quand il y a l'âge, il y a le physique qui ne répond pas. Certains joueurs ont l'âge, mais ils n'ont pas le temps de jeu nécessaire comme Bolasie. C'est à peine maintenant qu'il vient de signer les contrats en Turquie, donc il n'a pas commencé avec sa nouvelle équipe. Donc la compétition lui manque dans les jambes et tu ne vas pas venir rechercher la qualification à la Coupe du Monde au moment où tu n'as pas un temps de jeu exigeant et contraignant.
Affaire Ben Malangu, où en est-on?
Non, il n'y a pas d'affaire. Hein. Ben Malangu a été contrôlé positif. Nous tous, nous sommes arrivés arrivé à Cotonou, on a fait les tests à l'aéroport, mais malheureusement pour lui, il n'était pas les seuls. Le président de la Fédération Congolaise de Football Association, M. Donatien Chimanga, a été contrôlé positif. Docteur Bungu Kakala, le médecin de l'équipe, a été contrôlé positif. Moutoubile Santos a été contrôlé positif. Bon, ça arrive, donc il est resté à l'hôtel. Or, nous, après le match de Lubumbashi, on était tous d'accord que Ben Malango allait commencer les matchs à Cotonou. Malheureusement, il est contrôlé positif, il ne peut pas jouer.
Alors, le stade des martyrs, le fait que le match soit délocalisé, ça joue en défaveur de nos joueurs.
Non, pourquoi? Le stade de Mazembe, c'est un stade comme tout autre. Ce n'est pas le stade qui joue, ça c'est l'équipe qui joue. Les prochains matchs, on jouera au stade des martyrs, on va juger de la valeur réelle de l'équipe. Non, le stade n'a rien à voir. Bon, le stade, il est en chantier, j'espère qu'il va se terminer. Le ministre m'a précisé que les travaux sont très très avancés, les tapis ont été placés, donc les terrains synthétiques, et que les chaises sont en train d'être placées. La FIFA va arriver le 11 pour les contrôles. On attendra, si la FIFA autorise, on jouera à Kinshasa. Si la FIFA dit que les travaux sont insatisfaisants, eh bien on va aller à Lubumbashi. Ça n'a rien à voir avec les stades.
Est-ce qu'on peut conclure avec vous, avec cette affaire de retransmission des matchs? Est-ce qu'on peut rassurer la population que les matchs seront bel et bien retransmis en direct?
Je pense que la situation est en train d'évoluer sensiblement. Les délégués de la CAF, M. Abdelba, va arriver d'ici 14 ou le 15. Il va arriver pour finaliser ce projet.
Monsieur Kaboulo, merci.
Ainsi s'achève ce journal. Merci de l'avoir suivi.